Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons de nouveau aborder un sujet géopolitique. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet et qu'en vous abonnant, eh bien, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à produire ces contenus, podcasts, émissions vidéo et site internet et revues. Pour vous abonner, vous pouvez vous rendre sur notre site internet revueconflit.fr ainsi que dans nos magazines dont le numéro actuel est consacré à la Méditerranée orientale, la mer de tous les dangers. Alors nous allons aborder cette semaine un sujet qui nous intéresse particulièrement à Conflit, qui est celui de l'intelligence territoriale, du développement des territoires. C'est un sujet que l'on essaye d'introduire dans la géopolitique, montrer que la géopolitique ce n'est pas que les relations internationales, ça en fait partie bien évidemment, c'est une composante, mais ce n'est pas une composante unique. Et il est donc important de voir comment les États, les territoires sont organisés, sont structurés, les villes, les entreprises également, et ce rapport entre le global et le mondial, entre la mondialisation d'un côté et des territoires de l'autre. Et c'est le thème de notre émission entre économie mondiale et prospérité locale, qui est le titre d'un essai qui vient de paraître, dont j'ai la joie de recevoir l'auteur cette semaine, Guilhem Delon-Sommier, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous travaillez dans une entreprise qui conseille en développement économique, notamment des entreprises. Et vous venez de publier un essai donc, qui s'intitule « Économie mondiale et prospérité locale, comment les régions françaises réussissent dans la mondialisation » qui est paru chez Librairial et que l'on peut télécharger librement. Alors c'est un sujet extrêmement important parce que quand on parle de mondialisation, on évoque un thème, un mot qu'on emploie beaucoup sans jamais forcément le définir. Et on a toujours l'idée un peu commune que la mondialisation détruit des emplois ou que la mondialisation est nuisible aux entreprises et aux territoires français. Or, dans votre étude, vous avez repris de nombreux chiffres qui sont issus de l'INSEE, qui sont issus de la comptabilité nationale. Vous montrez à quel point les entreprises françaises et les territoires, et notamment les régions, bénéficient de la mondialisation. Alors, on va y revenir, bien évidemment, tout au long de cette émission, en donnant notamment de nombreux exemples. Et votre étude est extrêmement originale parce que c'est la première partie consacrée à la France de manière générale avec des données nationales. La suite de l'étude étudie plusieurs régions, notamment la région Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes, où là vous montrez concrètement ces effets bénéfiques. Et vous dressez aussi des portraits d'entreprises. Donc je dois dire que j'en connaissais peut-être une ou deux sur la dizaine que vous indiquez, mais des entreprises extrêmement intéressantes, parfois un peu surprenantes. Je pense notamment à une que j'ai découverte grâce à votre essai qui fait des spectacles aquatiques et qui est basé au nord de Strasbourg. Très surprenant, une très belle réussite française qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc on va y revenir en évoquant à la fois des éléments généraux et puis des exemples d'entreprises parce que c'est aussi ce qui est particulièrement intéressant. Alors, premier élément, Guilhem Delon-Sommier, vous évoquez la place du commerce extérieur pour la France. Vous dites que le commerce extérieur, vous citez évidemment des données de l'INSEE, ce n'est pas une invention, le commerce extérieur représente 60% du PIB de la France et plus de 6 millions de Français doivent un emploi au commerce extérieur. Pour le dire autrement, une partie importante de la puissance française est due à son commerce, est due à ses échanges, et s'il n'y avait pas ça, la France serait moins puissante et moins riche.
Oui, bonjour, merci déjà de me recevoir pour cet entretien.
Donc oui, l'idée de l'étude, c'était vraiment d'avoir une approche davantage centrée sur les territoires plutôt qu'une approche globale qui était, à mon goût, et un peu trop centrée sur les grandes entreprises, les multinationales. Lorsqu'on parle de mondialisation, on évoque toujours un peu voilà, des phénomènes de délocalisation, par exemple, souvent des multinationales et des métropoles également en France, Paris. Et c'est un peu dommage parce que, bon, évidemment, la mondialisation soulève tout un tas de problématiques. Il ne s'agit pas de le nier. Simplement, en regardant un peu plus en profondeur, on peut s'intéresser aux effets bénéfiques de la mondialisation dans les territoires et pour les agents économiques au plus petit échelon. Et donc, vous parliez tout à l'heure de la définition de la mondialisation. Je pense qu'il n'est pas inintéressant de repréciser un peu de quoi on parle. Déjà, là, quand on parle de mondialisation, la mondialisation n'est pas un état de fait, c'est un processus. C'est un processus d'intensification, d'extension des échanges dans le temps et dans l'espace. C'est aussi un processus d'intégration donc des économies nationales aux économies, au marché mondial. Et c'est encore une fois un processus de libre circulation des marchandises, des capitaux. Des personnes. J'aimerais dire aussi que c'est pas quelque chose de nouveau, hein, la mondialisation. Il y a eu différentes vagues de mondialisation à différentes époques. Hein, à l'époque de l'Empire romain, on parlait déjà de tentatives d'unification d'empire, on parlait déjà de phénomènes de mondialisation. L'emploi du terme, le terme mondialisation en lui-même est récent. Et lorsqu'on parle de mondialisation aujourd'hui, on fait référence à un phénomène qui prend ses réalités à partir de la Révolution française, grosso modo, et de la Révolution industrielle, donc au cours du XIXe siècle, et qui ensuite s'établit et qui se développe tout au long du XXe siècle. Et donc, la mondialisation, il y a tout un tas de controverses qui se développent sur le terme. Ce qu'il faut voir, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a tout un tas d'emplois qui dépendent, d'emplois français, hein, parce que l'étude est basée sur la France, tout un tas d'emplois du secteur privé qui dépendent directement ou indirectement de la mondialisation et du commerce international. Pourquoi ? Eh bien parce que donc on estimait à environ 1 sur 3 le nombre d'employés du secteur privé qui dépend en fait de façon directe ou indirecte pour son activité de l'international. C'est-à-dire que un salarié sur trois travaille dans une entreprise, dans une industrie qui dépend soit de l'export, donc il y a des activités à l'export, qui dépend de l'import, donc qui travaille dans une entreprise qui se spécialise dans les grandes filières importatrices, le commerce de gros de biens intermédiaires par exemple, ou alors des employés qui sont employés par des entreprises étrangères en France, donc des entreprises qui possèdent leur maison mère à l'étranger, et qui opèrent sur le sol français. Si on additionne toutes ces composantes, on obtient un nombre vraiment important, et je pense qu'il est nécessaire de le rappeler, hein, surtout dans la période actuelle de turbulence, que la mondialisation, c'est avant tout des gains et des bénéfices pour l'ensemble des territoires dans nos régions.
Alors, ce qui est effectivement très intéressant dans votre étude, c'est que souvent, quand on pense commerce international ou échanges internationaux, on pense aux métropoles. Évidemment, Paris et l'Île-de-France, c'est la première région européenne et donc elle a un statut en particulier en Europe d'une part et en France d'autre part. On pense aux métropoles, on pense aux grands groupes, alors, évidemment le CAC 40, Total, LVMH, etc. Mais ce que vous montrez, c'est que de très très nombreuses PME, voire très petites entreprises, vivent de ces échanges internationaux, et ainsi que des villes petite ou moyenne, et notamment, alors c'est le chiffre que vous citez, que par exemple sur les projets d'investissement étrangers, 4 sur 10 sont réalisés dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc ce ne sont pas uniquement les métropoles qui vivent de ces échanges, mais un très grand nombre, une très grande partie du tissu français. Ça a été d'ailleurs un peu le débat un peu biaisé, c'est cette idée de la France périphérique. On a l'impression qu'il y a les métropoles et puis à côté, il n'y a rien. Ce qui n'est pas vrai, c'est un tableau qui mérite d'être grandement nuancé. Et notamment, on va le voir, il y a quelques exemples d'entreprises qu'on va citer. Beaucoup d'entreprises importantes dans le commerce international ont leur siège dans des villes moyennes, voire des petites villes. L'autre élément que sur lequel vous insistez aussi, c'est le fait que dans le commerce, il y a la notion de bien intermédiaire. Parce que souvent, quand on pense commerce, on pense là aussi bien fini, produit fini. Or, vous montrez l'importance de ce que sont les biens intermédiaires. Peut-être commençons par les définir. Qu'est-ce que c'est qu'un bien intermédiaire et quel rôle ça joue pour un grand nombre d'entreprises françaises ?
Alors, un bien intermédiaire, c'est un bien qui n'a pas vocation à être consommé de façon au bout de l'étape de production. C'est un bien qui va être utilisé dans le processus de fabrication d'un bien qui, lui, a vocation à être consommé. Donc, c'est en fait tout un tas de biens qui vont être utilisés pour constituer un bien qui va être ensuite vendu au consommateur. L'importance de des biens intermédiaires, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde l'état du commerce international, on a à peu près 70% des échanges qui sont des échanges de biens intermédiaires. Deux biens sur trois échangés dans le monde sont des biens intermédiaires. Donc le commerce est gigantesque. Alors pourquoi tant de biens intermédiaires ? La raison, c'est parce que notre économie est fortement fragmentée. Hein. Alors déjà, on a une division du travail qui est très poussée, et il est plus avantageux. Alors là, je fais référence aux théories du commerce international, hein, donc Ricardo depuis le 19e siècle, qui ont montré qu'il est plus avantageux pour des États de se spécialiser dans des activités où ils disposent d'un avantage comparatif, plutôt que de chercher à vouloir tout produire. Donc il faut mieux se spécialiser sur une ou quelques productions, puis importer le reste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a donc des économies où chaque État se spécialise plus ou moins dans des productions, puis importe le reste. Donc le processus de production est très fortement fragmenté. Aujourd'hui, il est quasiment impossible pour une seule entreprise de produire tout en interne. Rien que, par exemple, un crayon de bois, on ne peut pas le produire de façon totalement autonome. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas produire un crayon de bois juste en France. Il faut sourcer des matières un peu à droite à gauche. Et donc pour revenir à l'importance du commerce, donc de biens intermédiaires, ce qu'il faut voir, c'est que nos importations de biens intermédiaires conditionnent nos exportations, comme je viens de le dire. Si on cherche, certains commentateurs voudraient, ou certaines personnes voudraient réduire nos importations et exporter davantage, hein. Donc ça c'est les théories mercantilistes, hein. L'idée qu'en exportant davantage on fait rentrer des sous et donc on s'enrichit. Malheureusement ça marche pas trop comme ça parce que les exportations des uns sont les importations des autres. Si j'exporte moins, quelqu'un importe moins et vice versa. Déjà. Et ensuite, deuxième raison, si on importe moins aujourd'hui, on se prive d'une partie de certains biens intermédiaires. On pénalise des entreprises qui, soit n'auront plus accès à des consommations intermédiaires nécessaires pour produire des biens qui seront ensuite destinés à l'export, soit elles devront se mettre à produire des biens pour lesquels elles n'ont pas d'avantage comparatif. Autrement dit, elles vont produire des biens plus chers, moins compétitifs, et au final, qui pénaliseront notre économie. Donc voilà vraiment sur l'importance des biens intermédiaires.
Et puis, dans ce que vous dites, il y a aussi cette notion de balance commerciale, alors qui est intéressante en économie parce que c'est un facteur à prendre en compte, mais elle est souvent mal comprise parce qu'effectivement, les gens pensent que si on vend, on s'enrichit, quand on achète, on appauvrit parce que c'est un État qui vend et qui achète. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand un pays importe des biens, c'est pas la France qui achète, c'est une entreprise comme Total ou comme Aquatic Show que vous nommez qui achète, qui transforme ce bien et qui le revend avec un bénéfice. Et en plus, des produits qui sont importés sur le territoire français paye des taxes, donc ça enrichit la comptabilité nationale. Donc c'est vrai qu'on reste sur cette logique de balance commerciale, qui est un outil qui est intéressant à prendre en compte, mais qui n'est pas un absolu, et surtout, il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que la France importe des produits qu'elle s'appauvrit, elle ne les paye pas avec ses biens, sauf si cas particulier comme l'Algérie qui utilise son argent national pour acheter du pétrole ou des choses ailleurs, mais là c'est vraiment un cas très particulier. Alors vous avez évoqué les sous-traitants, ça c'est un aspect aussi très important. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à une carte de la production du Rafale qu'on a publiée notamment dans le hors-série Aviation, qui a été réalisée par Jean-Marc Holtz et qui a comptabilisé 500 entreprises en France qui fabriquent une pièce qui sert ensuite à fabriquer le Rafale. Et donc Dassault Aviation a, de mémoire, une dizaine d'entreprises spécifiquement Dassault en France, et tout le reste, ce sont des entreprises qui fabriquent des pièces qui permettent de faire le Rafale. Et évidemment, ces entreprises fabriquent aussi pour d'autres entreprises. Donc, on a une très grande diversité. L'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est de voir, on l'a un peu évoqué, le fait que de nombreux territoires moyens, moins de 20 000 habitants, voire parfois des petites villes, 10 000 habitants ou plus, ont des entreprises importantes. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a ce tissu économique aussi dans ces villes ? Est-ce que c'est une famille qui a fondé l'entreprise à cet endroit-là ? Est-ce que ça correspond à aussi un réseau de relations avec d'autres entreprises, avec des universités ? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait des territoires peut-être plus dynamiques que d'autres ?
Alors déjà, vous évoquiez tout à l'heure sur la question de l'attractivité de la France et de la destination des investissements étrangers en France. Vous avez évoqué le chiffre de 4 sur 10, et je pense super important. En effet, 4 investissements sur 10 en France s'établissent dans des villes de moins de 20 000 habitants, je le répète. Alors même si, certes, on a une économie qui est très centralisée autour de la région parisienne, on a déjà ce chiffre-là. Et 7 investissements étrangers sur 10 s'établissent dans des villes de moins de 200 000 habitants. Donc on a 70% des investisseurs étrangers qui, alors pour donner un chiffre, sur l'année 2019, par exemple, on a eu un peu plus de 1460 décisions d'investissement d'investisseurs étrangers sur le territoire français. Sur ces 1460, on a 70 qui vont dans des villes de moins de 200 000 habitants. Donc ça montre...
200 000 habitants, c'est un peu moins que Bordeaux, une idée à peu près d'échelle.
C'est ça. Donc c'est pour montrer que tout n'est pas aspiré par la métro, par la capitale. Et ensuite, sur la question de l'attractivité, pourquoi est-ce que certaines entreprises iraient en province plutôt que dans la capitale ? Il y a différents facteurs. Il y a les facteurs coûts, évidemment. Hein. On se rend compte qu'aujourd'hui, rien qu'entre Paris et Lyon, qui sont les deux plus grandes villes, le coût de la manœuvre est bien moindre à Lyon par rapport à Paris, et le coût de l'immobilier aussi. Hein. Une ville comme Lyon, ou comme Grenoble, par exemple, unique comme Grenoble, le coût des locations pour l'entreprise, l'immobilier est 4 fois moins cher qu'à Paris. Donc il y a des entreprises qui commencent à se dire, voilà, il y a une hyper-concentration sur Paris, c'est aussi lié à la tertiarisation de l'économie. On a à peu près, sur le schéma des investissements en France, vous avez à peu près 50% des investissements qui vont dans le secteur manufacturier et 50% qui vont dans le secteur des services. Donc on a la moitié des investisseurs qui sont dans l'économie tertiaire et qui se rendent compte que finalement, avec le digital, etc., c'est pas forcément nécessaire de vouloir avoir son usine ou son bureau dans les quartiers d'affaires les plus chers ou dans les villes, dans les quartiers, les arrondissements les plus chers de Paris, et que il peut être plus simple de aussi pour attirer de nouveaux talents, hein, parce que tous les talents ne sont pas qu'à Paris, de décentraliser pour des questions de coûts, des questions de facilité aussi, c'est plus facile. Et donc tout un tas de raisons. Après, vous avez aussi évoqué l'aspect familial. Beaucoup d'entreprises qui se créent aussi pour qui sont à la base des petits commerces, je pense qu'on y reviendra là, plus tard, et qui petit à petit ont grossi et sont devenus des géants, des entreprises qui font la fierté de leur territoire et qui opèrent sur des marchés à l'international, mais qui partaient de territoires reculés, hein, et qui n'ont pas débuté à Paris ou dans les grandes métropoles. Donc le succès ne provient pas que de la capitale.
On a notamment Yves Rocher, parmi les plus célèbres, Yves Rocher et Pierre Fabre, ce deux pharmacies à l'origine fondées par Yves Rocher d'un côté, Pierre Fabre de l'autre, Pierre Fabre Castres dans le Tarn, Yves Rocher en Bretagne, et qui aujourd'hui sont deux groupes pharmaceutiques, mais dans des secteurs assez différents. Yves Rocher est plus cosmétique, mais deux groupes très importants et qui ont une part active à l'international également.
Voilà, c'est ça. C'est des bons exemples. On a également, par exemple, moi, une entreprise que j'apprécie tout particulièrement, c'est Vivesia. Si je ne dis pas de bêtises, le groupe Soufflet, pardon. Le groupe Soufflet
une belle histoire parce qu'on est dans l'Aube.
C'est ça, on est dans l'Aube, à Nogent-sur-Seine. Le groupe Soufflet qui est le premier malteur mondial, qui est une entreprise à la base, qui à la base est un petit commerce de grains. Il faut vraiment voir que c'est une entreprise qui a été créée au début du XXe siècle, qui était un petit commerce familial et qui vendait des grains, et qui est devenu en l'espace de 60 ans le premier malteur mondial. On a par exemple une bière sur 10 vendue dans le monde est produite à la base avec son malt. Donc c'est énorme. C'est une entreprise qui a misé son développement sur la conquête des marchés à l'export et l'innovation. C'est aujourd'hui le premier collecteur privé de céréales en Europe. Et c'est une entreprise qui fait plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 60% à l'export. Là encore, c'est hyper important de souligner que 60% sont à l'export. Donc on voit la dépendance des marchés extérieurs dans la réussite de ces entreprises. Je trouve que c'est un bon exemple d'une réussite qui, en plus, qui fait la fierté du département et de la région.
Et qui a beaucoup investi ces dernières années en Russie, Europe de l'Est, par ailleurs. Ils ont racheté récemment République tchèque, me semble-t-il, et puis aussi en Asie centrale, enfin dans les anciens pays soviétiques, ils ont racheté des entreprises et des usines de transformation des grains. C'est vrai qu'on parle beaucoup quand des entreprises françaises sont rachetées par des étrangers. On a eu récemment le cas avorté, certes, mais entre Carrefour et son concurrent canadien. On parle moins quand des entreprises françaises rachètent des entreprises étrangères. Or, c'est aussi une part importante et c'est une manière pour les entreprises françaises de se développer. Dans votre essai, vous étudiez donc les régions par rapport à leur développement économique. Alors, on met de côté l'Île-de-France, qui encore une fois est un cas à part en France et en Europe, mais vous concentrez sur les deux régions qui viennent ensuite, à savoir Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est les noms actuels, mais évidemment, d'un côté, Grand Est, il y a à la fois l'Alsace, la Lorraine et la Champagne, on a cité le groupe Soufflé notamment, et puis Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Auvergne, et puis la vallée du Rhône et Lyon. Pourquoi est-ce que ces deux régions sont celles qui bénéficient le plus des exportations, de la mondialisation, du commerce international par rapport à d'autres? Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Occitanie? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Bretagne? Est-ce que des éléments spécifiques à ces régions, la situation géographique, l'histoire?
Il y a plusieurs raisons à cela. Alors déjà, je suis pas sûr qu'elles bénéficient moins du commerce international que d'autres régions. Simplement, elles ont misé davantage sur cet atout. J'ai pris ces deux régions en exemple parce que je trouve que c'est vraiment des exemples pertinents. Pourquoi ? Parce que ces deux régions qui ont misé en fait centré leur politique régionale de développement, leur politique d'attractivité sur l'ouverture, qui ont fait le choix de l'ouverture très tôt. Et donc c'est un choix parmi d'autres, ce qui explique pourquoi leur développement économique est plus important que certaines autres régions et qu'elles ont su se développer d'une manière parfois différente d'autres régions plus pauvres. C'est le premier pilier, c'est la politique d'attractivité. Vous avez dans chaque région des agences de développement économique qui sont rattachées à la région, qui sont en charge de l'attractivité du territoire, donc ils sont en charge en fait de favoriser le développement économique en accompagnant les entreprises à la fois dans leur démarche à l'export, en les accompagnant dans leur développement sur différents marchés, etc. Mais aussi elles ont pour rôle, ces agences, d'accueillir les investisseurs étrangers et aussi de les détecter et de les accompagner, de les convaincre d'investir sur leur territoire. La région Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes sont des régions qui ont beaucoup misé en termes d'attractivité sur ce pilier des investissements et qui ont employé beaucoup de moyens pour attirer des investisseurs. Et aujourd'hui, on voit que leur développement économique est dû pour beaucoup à la fois à l'export, mais aussi de par leur attractivité à l'égard des investisseurs.
Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux régions qui ne sont pas des régions portuaires. Il n'y a pas de grands ports. Ce n'est pas la Provence-Côte d'Azur, par exemple, avec le port de Marseille. Ce ne sont pas non plus les régions de l'Ouest, où là, il y a de nombreux ports. Ce sont des régions enclavées dans les terres et qui pourtant ont cette ouverture. Alors, le Grand Est a pour elle quand même d'avoir la frontière avec l'Allemagne et d'avoir le Rhin, qui est quand même un axe de passage important. Donc, évidemment, ça peut jouer. Mais ça déjoue un petit peu les idées reçues en matière de développement et en matière de développement territorial notamment, sur l'idée qu'il faut absolument avoir une ouverture maritime et un port. D'ailleurs, un des pays les plus riches d'Europe, c'est la Suisse, qui est complètement enclavée et qui n'a aucun port. Donc comme quoi,
la géographie ne fait pas tout, il y a aussi la volonté humaine et l'inventivité humaine qui peut parfois aller un peu contre la géographie et permettre des développements malgré tout. Alors, on a cité le groupe Soufflé, qui est un groupe important. Alors, effectivement, vous l'avez dit, on ne le sait pas forcément, mais une bière sur dix est brassée avec des céréales vendues par le groupe Soufflé. Si on reste dans la région Grand Est, alors il y a cette entreprise que j'ai citée en début d'émission, Aquatic Chou International. Alors là, c'était une découverte parce que je ne connaissais pas du tout. Donc nous sommes au nord de Strasbourg et c'est une entreprise qui a été fondée dans les années 1970 et qui fait des spectacles aquatiques. D'ailleurs, je renvoie nos auditeurs qui peuvent aller sur le site de l'entreprise et qui verront quelques photos et quelques exemples de spectacles qui ont été réalisés. C'est très impressionnant. Comment est-ce qu'elle s'est développée, cette entreprise ? Comment est-ce qu'on passe d'une entreprise qui fait des spectacles locaux à une ouverture maximale importante ? Vous dites que 90% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger.
Oui, c'est assez original. C'est pour ça que j'ai souhaité la mettre dans l'étude. Alors déjà, c'est une activité qui est assez, c'est assez spécifique, hein, c'est des spectacles d'eau. Et c'est, alors si on relie un peu ce que j'ai écrit et ce que j'avais été chercher, donc il y a des articles, hein, nombreux articles sur l'entreprise, sur ses fondateurs. Il y a eu un peu de chance au départ, forcément ils le disent, hein, mais ça c'est le lot de réussite de tout le monde. C'est voilà, ça partait pour cette entreprise d'un petit spectacle d'eau entre amis, avant d'être repéré en fait par des personnes qui prospectaient en fait des entreprises qui réalisaient ce genre d'activité. Et c'est ensuite une entreprise qui a connu un développement assez spectaculaire et qu'on retrouve par exemple dans des événements tels que les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. On la retrouve au Puy du Fou. On la retrouve dans d'autres événements internationaux. Et donc c'est une entreprise, je pense, qui a misé sur un secteur d'activité assez très spécifique, très spécialisé, et qui s'est dit je vais m'ouvrir, à mon avis, hein, je vais m'ouvrir sur l'international, conquérir, adopter une stratégie de conquête des marchés export avant que mes concurrents fassent de même, ou avant que mes concurrents, ou avant que d'autres nouveaux entrants arrivent sur le marché. Et je pense que c'était une stratégie intelligente, et encore une fois, c'est un bon exemple d'entreprise qui se situait non pas dans la capitale, mais dans une région qui aussi lui a permis, de par sa politique d'attractivité régionale, de se développer à l'export, d'avoir des soutiens, d'avoir des interlocuteurs à qui parler, parce que c'est pas évident, qui lui a permis ensuite de se développer et de faire aujourd'hui oui, 90%, si c'est bien ça, de son chiffre d'affaires à l'export, ce qui est colossal pour ce genre d'activité.
Parce qu'une entreprise qui s'ouvre à l'international, ça suppose quand même plusieurs moyens à mettre en place. Alors, il faut parler les langues locales. Bon, l'anglais devient une langue mondiale, mais enfin, quand on travaille avec des Chinois, il est peut-être bon aussi de connaître un peu la langue chinoise. Ça suppose aussi de connaître les différentes juridiques. On ne signe pas un contrat de la même manière avec les Américains qu'avec des Russes ou avec des Espagnols. De comprendre aussi le contexte géopolitique, donc des zones à risque, des guerres potentielles, des cultures locales aussi. Donc il ne s'agit pas d'être bon uniquement dans son domaine, dans son secteur de production, mais il y a tout un environnement juridique, culturel, politique à prendre en compte. Est-ce que ça, les régions apportent ce genre d'aide ou est-ce que c'est aux entreprises à faire un petit peu comme elles peuvent pour se débrouiller avec ça ?
Alors oui, les régions, donc j'évoquais tout à l'heure les agences de développement économique, qui sont vraiment en fait des entités qui sont là pour accompagner l'entreprise. Pourquoi ? Parce que les régions, les États, même les États, hein, l'ont compris, il faut miser sur l'attractivité. Il faut miser sur l'attractivité de son territoire dans sa politique de développement économique. Les agences de développement économique, c'est par exemple Business France. Business France, au niveau national, hein, l'agence en charge de la promotion des investissements et de l'attractivité de la France à l'échelle internationale. On a déjà Business France qui apporte un certain nombre de soutiens aux entreprises. Et ensuite, en fonction des régions, en fonction des agences, comme je disais, en fonction de leurs priorités, en fonction des priorités politiques locales, certaines agences offrent plus ou moins de services et plus ou moins de possibilités et se font aussi plus ou moins connaître. Il y a aussi la question de la promotion, hein, parce que les agences ne sont pas forcément très bien connues. Tout un tas de services peuvent être offerts. Déjà, je pense que ce qui est primordial pour les entreprises, c'est pour ce genre d'entreprise, c'est l'esprit entrepreneurial. C'est vraiment des gens qui ont un esprit d'entrepreneur, qui sont des brouillards et qu'on devrait, je pense, valoriser davantage. C'est des gens qui ont sûrement eu, voilà, qui ont réussi à se développer de façon importante très vite. Mais bien sûr, ils n'ont pas été tout seuls. Hein. Alors, par exemple, en France, pour la région Grand Est ou Auvergne-Rhône-Alpes, les entreprises qui veulent se développer à l'international peuvent d'abord contacter justement ces agences pour leur demander de l'aide. Alors, l'aide, concrètement, c'est quoi ? Ça va être des soutiens pour déjà prendre la prise de contact. Pour prendre des contacts, je sais pas, je veux investir aux États-Unis, il faut que je connaisse un minimum mon écosystème. Donc, on va avoir des correspondants dans l'agence, au sein de l'agence Grand Est, qui vont être en liaison avec leurs homologues des États fédérés américains. Donc déjà la question du réseau, c'est super important, hein, on ne peut pas s'engager, et vous évoquez la question des langues, on ne peut pas s'engager comme ça sans maîtriser un minimum les spécificités linguistiques, etc. Et ensuite, il va y avoir d'autres soutiens, par exemple la recherche de sites. Alors ça va être plutôt sur le marché de destination, c'est-à-dire que pour investir aux États-Unis, si je veux investir par exemple à New York, ou je dis n'importe quoi, ou dans tout autre état, souvent il y aura des mécanismes qui seront mis en place, des dispositifs d'aide pour trouver des locaux, pour trouver faire du recrutement, pour être mis en relation avec des universités, des partenaires, des incubateurs aussi, c'est super important, des incubateurs, des accélérateurs, des pôles de compétitivité. Il y a tout un écosystème, mais c'est, voilà, c'est vraiment, après, encore une fois, ça dépend un peu des régions, mais pour la région Grand Est, par exemple, ou en Alpes, elles ont des dispositifs déjà d'accompagnement pour ce qui est études de marché. C'est-à-dire qu'elles peuvent déjà accompagner l'entreprise dans l'identification des localisations optimales, faire une étude de localisation comparative pour dire, voilà, là, en fonction de tel secteur d'activité, c'est mieux d'investir sur tel territoire parce qu'il y a tel cluster d'entreprises, par exemple, il y a tel client qui se trouve là. Donc voilà, le panel de services est vaste et dépend encore une fois de la politique, des politiques adoptées de façon locale par ces agences régionales et nationales.
Alors je cite des données que vous mettez dans votre ouvrage. Donc sur l'année 2019, 30 000 nouvelles entreprises se sont engagées à l'international et parmi elles, 90% ont moins de 20 salariés. Donc ça bat en brèche l'idée selon laquelle seuls les grands groupes s'ouvrent à l'international. Et notamment, donc l'autre donnée que vous mettez dans votre ouvrage, 8 entreprises exportatrices sur 10 sont des entreprises de moins de 20 salariés. Et donc seuls 3% des exportateurs ont 250 salariés ou plus. Donc on le voit à travers ces données, ce n'est pas réservé qu'aux grands groupes, ce qui est à la fois très bien pour le tissu économique français et ça montre que des petites entreprises peuvent être extrêmement agiles, ce qui veut dire aussi que dans le cadre d'une guerre économique, dans le cadre de déstabilisation, elles n'auront pas non plus forcément les moyens d'y faire face. Donc ces entreprises-là, qui sont petites, elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un avocat qui les conseille, d'avoir des gens en intelligence économique qui les aident aussi. Donc c'est à la fois très bien, et en même temps, ça peut être aussi une faiblesse en matière de tout ce qui n'est pas directement entrepreneurial, mais tout ce qui est là côté nécessaire à l'exportation.
Oui, alors c'est encore une fois, d'où l'intérêt des agences développement économique et du support que peuvent avoir les agences publiques, l'État ou ses déclinaisons dans les territoires. C'est aussi ce rôle que j'ai pas forcément évoqué comme premier abord, mais ce rôle de soutien, pas simplement pour s'établir dans les marchés, mais pour y rester, pour faire face à la concurrence, pour adopter un peu les codes et les bonnes pratiques, et ensuite pour obtenir une sorte de pour obtenir tout un tas d'aides pour perdurer. Il ne s'agit pas simplement de s'implanter. Hein. Si l'agence, si les autorités se contentent d'accompagner les entreprises dans leurs implantations et leur disent ensuite, voilà, vous vous débrouillez, ça n'a pas spécialement d'intérêt parce que ensuite, il est plus dur en fait de se maintenir à niveau compétitif sur un marché que de s'y implanter. Et donc là encore, on fait face à tout un tas de problématiques, comme vous l'avez dit, de guerre économique. Si on regarde les dispositifs mis en place aux États-Unis par les autorités publiques pour soutenir leurs entreprises, on remarque qu'elles font ça depuis très longtemps. Alors nous, en France, on le fait, voilà, donc, comme je dis, avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Île-de-France, évidemment, hein, mais ce n'est pas encore très, très... ça avance, hein, mais ce n'est pas encore au niveau des Américains. Chaque État aux États-Unis est doté de son agence et accompagne ses entreprises et leur fournit tout un tas de services, comme vous l'avez dit, avocats en cas de situation, et ensuite, éventuellement, du soutien plus diplomatique en cas de situation un peu compliquée. Hein. Alors, ça va pas forcément besoin d'aller jusqu'à cette échelle-là. Ça peut être du soutien pour identifier des menaces sur un territoire, des risques d'espionnage, de vol d'informations. Hein. Évidemment, c'est des problématiques pour lesquelles les petites entreprises ne sont pas forcément toutes conscientes et n'ont pas forcément les mêmes moyens, hein, n'ont pas forcément un service dédié à la protection d'information ou un service intelligence économique comme les grands groupes l'ont. Donc c'est super important de mentionner ça. Et pour revenir à ce que vous disiez au début, on a 9 entreprises sur 10, donc sur 30 000 entreprises, donc 30 000 nouvelles entreprises qui s'étaient engagées à l'export en 2019. 9 sur 10, c'était une entreprise de moins de 20 salariés. Alors, ce qui est normal, entre guillemets, aussi, parce qu'on a en proportion beaucoup plus de petites entreprises que de grosses. Hein. Mais c'est très intéressant de souligner, parce que ça montre que ce n'est pas uniquement les grosses, les multinationales qui exportent. C'est énormément de petites entreprises, et que si demain, on réduit notre ouverture, on impacte directement en fait, les petites entreprises, qui, elles, n'ont pas forcément les moyens de se relever, qui, elles, créent du dynamisme, et qui n'ont pas qui ne sont pas impactés de la même manière lorsqu'on établit des barrières à l'échange, qui ne sont pas impactés de la même manière que les firmes multinationales qui, elles, peuvent avoir le support de l'État, qui peuvent être voilà, par des questions de connivence, et qui, elles, peuvent s'en remettre bien plus facilement que des plus petites structures.
C'est vrai qu'on oublie souvent que les barrières douanières pénalisent en priorité d'abord les petites entreprises avant les grandes, qui ont les moyens autres de les contourner. Alors, dernier exemple, entreprise très intéressante parce qu'elle est présente avec des filiales à Boston, à Shanghai et à Singapour, et le siège est situé à Mourjou, dans le Cantal. Donc, c'est l'entreprise Interlab qui fabrique du matériel destiné à la microbiologie. Et là, on a effectivement une petite commune dans le Cantal avec cette entreprise qui est extrêmement spécialisée et qui est reconnu partout dans le monde, États-Unis, Chine, Singapour également.
Oui, ça aussi, c'était une entreprise qui me tenait à cœur, parce que c'est encore une fois une entreprise qui fait la fierté de sa commune, hein, Mourjou, on est sur vraiment un petit village, qui fait la fierté de son département, le Cantal, qui n'est pas un département des plus ouverts, ou pas un département qui tire forcément les meilleurs bénéfices de la mondialisation en termes d'ouverture. Mais voilà, c'est encore une entreprise qui, pour montrer que les entreprises de ce type, très spécialisées sur les secteurs de pointe, qui font appel à des technologies, des hautes technologies, hein, des technologies de pointe, c'est intéressant de montrer que même ces entreprises ne sont pas forcément oubliées lorsqu'elles se situent en province, dans les territoires, et que certaines ont des parcours assez incroyables. Pour le cas d'Interlab, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 1970 par un groupe d'amis, hein, si ma mémoire est bonne, et donc qui fabrique du matériel destiné à la microbiologie, comme vous le disiez, qui réalise aujourd'hui plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'export, présent dans une centaine de pays et qui dispose d'une quinzaine de brevets à son actif, qui a été récompensé aussi par de nombreux prix, des trophées, qui s'est implanté à Shanghai, Boston, Singapour, etc. Encore une fois, c'est des entreprises qu'il faut valoriser, qu'on ne valorise pas forcément au niveau national, mais qui sont valorisées dans les territoires. Hein, lorsqu'une entreprise comme ça, je pense que tout le monde la connaît, que tout le monde doit la connaître à Mourjou, en tout cas c'est ce qui sortait un peu des interviews et des témoignages sur Internet et sur les articles que j'ai pu consulter. C'est une entreprise qui sont un peu trop mises sous le tapis à l'échelle plus macro, parce que dès qu'on passe à une échelle plus globale, tout de suite on pense aux multinationales et tout de suite on tombe sur un débat avec des a priori et beaucoup de péjoratifs.
Eh bien, merci beaucoup, Guilhem Delon-Sommier, d'avoir évoqué avec nous ces rapports, donc le titre de votre ouvrage « Économie mondiale, prospérité locale, comment les régions françaises réussissent dans la mondialisation », qui est paru chez Librairial, qu'on peut trouver en accès libre sur le site de Librairial. Et effectivement, dans ces rapports entre géopolitique et économie, géopolitique et entreprise, eh bien, se rendre compte qu'il y a des entreprises extrêmement performantes et qui sont très développées et qu'il est important de faire connaître, de valoriser également, parce que c'est une partie majeure de la richesse de la France, d'une part, et de sa puissance également.
Merci beaucoup
pour votre fidélité et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission de Géopolitique. À très bientôt.